Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui s'attache à la vie des Européens. Ce sont d'anciens fleurons du style de vie britannique. Les stations balnéaires sont en déclin continu depuis 40 ans. De ces terres qui se sont abandonnées et sacrifiées, le parti populiste europhobe en a fait son terrain de chasse. Voilà pourquoi UKIP tenait sa conférence de printemps à Margate, sur la côte est de l'Angleterre, le week-end dernier. Devant 1500 supporters, la formation de Nigel Farage a développé son programme. Un galop d'essai avant l'accélération de la campagne pour UKIP, crédité certes de 15% des votes, mais qui déchaîne encore la polémique. Reportage Marie Billon.
Trois mois avant les élections les plus imprévisibles de ces dernières années, et le parti qui fait trembler les vieux murs de Westminster galvanise ses troupes.
J'entends les experts dire que UKIP pourrait gagner 4 ou 5 sièges au Parlement. Moi je dis, nous sommes bien placés pour en gagner 4 ou 5, rien que dans cette région. Parmi les bonnes gens de ce pays, l'armée du peuple recueille un soutien grandissant. Ils sont de plus en plus nombreux à savoir que nous sommes les seuls à avoir le courage de nos opinions et la force de tenir tête à un establishment qui a si mal servi notre pays. Et je salue tous nos candidats dans ces élections.
C'est ainsi que Nigel Farage s'est adressé aux militants de la conférence de printemps de son parti à Margate, cette station balnéaire en déclin et décrépit de l'est de l'Angleterre, aujourd'hui en proie au chômage et à la pauvreté. C'est dans cette région que le leader du UKIP veut se faire élire député. C'est ici, dans ces terres où les gens se sentent abandonnés, pense-t-il, que son message passe le mieux. Et c'est vrai qu'il a des fans.
Brilliant. Brillant, il est excellent, il est motivant. Les autres politiques, ils mentent, ils n'en ont rien à faire de nous. Nigel Farage, c'est une bouffée d'air frais. On l'accuse souvent d'avoir travaillé à la City, d'avoir travaillé dans les banques, mais au moins, il a travaillé. Il comprend les gens comme moi, monsieur et madame tout le monde.
Comme Dave, membre du parti depuis 3 ans, beaucoup de Britanniques se méfient des partis historiques. Et UKIP en profite beaucoup. De plus, il met en avant un programme assez clair et populaire qui tourne autour d'un double problème, l'immigration et l'Union européenne.
Nous ne sommes pas anti-Europe, nous sommes contre l'immigration non contrôlée. Notre île est petite, alors nous n'avons plus de place dans nos écoles et nos enfants doivent aller à plusieurs kilomètres de chez eux. Pour les mêmes raisons, on ne peut plus avoir de rendez-vous chez le docteur, donc on va à l'hôpital. Et maintenant, les hôpitaux sont trop pleins. Les personnes âgées n'ont plus de place en maison de retraite et elles ne peuvent même plus rester chez elles parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour les aider au quotidien parce que ça coûte cher et qu'on n'a plus d'argent parce que tous ces gens qui arrivent, ça coûte cher. L'immigration, c'est ce qui empêche notre société de fonctionner normalement.
L'immigration, la cause de tous les maux de la société britannique actuelle, c'est ce genre de discours qui fait dire à beaucoup de détracteurs du UKIP que c'est un parti intolérant et raciste.
Je sais que je ne suis pas raciste parce que mon beau-fils est indien. Comment aurais-je pu accepter qu'il épouse ma fille sinon? Si ce parti était raciste, je n'en ferais pas partie.
L'épouse de Dave, Wendy, est aussi membre du parti et engagée dans leur ville, Canterbury, à quelques kilomètres de Margate. Et comme beaucoup de supporters de UKIP, elle a déjà été agressée verbalement.
On avait un stand dans le centre-ville et des passants nous traitaient de loin de racistes. Et une autre personne, quelqu'un avec qui je travaille, donc je ne sais pas s'il plaisantait, il s'est exclamé « Tiens, des supporters nazis !»
UKIP déchaîne effectivement les passions. Le dernier jour de la conférence du parti, le groupe Stand Up to UKIP, Levez-vous contre UKIP, avait organisé une marche de la gare de Margate jusqu'à la salle de conférence et leur slogan était sans ambiguïté.
C'est un parti raciste, méchant et intolérant. Sa stratégie, c'est de tout mettre sur le dos des immigrants et d'attiser l'islamophobie.
Le UKIP et ses supporters sont remplis de haine. Ce n'est pas l'immigration qui est la cause de nos problèmes. À mon avis, c'est la crise financière qui est responsable.
We are black boys, Asian men.
Le cortège est plutôt calme, même s'il est dense. Plusieurs centaines de personnes sont là. Certains sont de la région, d'autres sont venus de Londres ou d'autres endroits dans les bus affrétés par Stand Up to UKIP. Beaucoup sont venus en famille avec leurs poussettes, par exemple. Mais les policiers sont quand même plus nombreux que d'habitude. Des jeunes hommes, la plupart le visage à moitié caché par un foulard, commencent à tourner autour de la foule. Ce sont des supporters de groupements d'extrême droite violents comme Britain First ou EDL. Ils n'ont rien à voir avec le UKIP qui a toujours pris soin de se distancer de ce genre de groupe.
Ils se prennent pour des gardes du corps de UKIP. Là, par exemple, c'est l'entrée de la salle de conférence et ce sont des fascistes qui gardent l'entrée. Et c'est toujours comme ça. Tout à l'heure, la police est vite intervenue, donc rien de grave ne s'est passé. Et nous, le service d'ordre, on essaie de former une barrière parce que ces gars, ils essaient toujours d'intimider les gens et de les énerver.
Il est vrai que UKIP attire des militants d'extrême droite plutôt radicaux. Officiellement, le parti le regrette. Mais pour l'instant, il ne souffre pas beaucoup de cette association, même si l'enthousiasme est un peu retombé. Depuis les élections européennes, UKIP se positionne, selon les sondages, comme le troisième parti après les travaillistes et les conservateurs. Il espère bien gagner plusieurs sièges au Parlement et pourquoi pas être le faiseur de roi si, comme en 2010, aucune majorité claire ne sort des urnes le 7 mai prochain.
Tässä kello 15 uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää iltapäivää.
Et voilà un projet de radio unique en son genre. Cela se passe en Finlande. La radio publique Yle va lire le Coran, traduit en finnois, du début jusqu'à la fin. Le programme débute dans quelques jours, le 7 mars. À raison d'une demi-heure par jour, pendant deux mois, les Finlandais vont découvrir un texte presque totalement inconnu dans ce pays. Pauline Curtet.
Tuo ilosanoma niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä.
Le concept est bien cadré. Pour préparer les auditeurs, un imam finlandais et un professeur, unique traducteur du Coran en finnois, discuteront d'abord du texte du jour. Ils devront expliquer le contexte historique et religieux dans lequel il a été écrit, ainsi que les leçons que l'on peut en retirer dans la société actuelle. Et ils devront démontrer que pour le Coran, comme pour tout autre texte religieux, tout est affaire d'interprétation. D'ailleurs, l'imam et le traducteur, deux experts du Coran, chacun dans leur genre, ont admis qu'ils étaient souvent en désaccord quant à la signification des textes. Et c'est bien là tout l'intérêt du projet. Le but pour Yle, la radio publique, c'est de lever les préjugés sur le Coran et l'islam auprès des Finlandais. Voilà pourquoi le texte va être lu dans son intégralité. Si nous avions retenu seulement les extraits violents ou à l'inverse les extraits incitants à la paix, le projet n'aurait pas été honnête, estime Jaakko Hämeen-Anttila, le traducteur du texte. En Finlande, la communauté musulmane, forte d'environ 60 000 membres, voit ce projet d'un très bon œil. Plusieurs imams ont d'ailleurs été impliqués, par exemple pour vérifier la validité des traductions du texte, vieux de 1400 ans. Certains espèrent même qu'il aidera à combattre la radicalisation de certains jeunes musulmans. Tout comme ses voisins suédois ou danois, la Finlande compte en effet plusieurs nationaux dans les rangs de l'organisation de l'État islamique. Et même l'extrême droite finlandaise n'a rien trouvé à redire à cette initiative. Difficile de critiquer un tel projet.
Et voilà, c'est fait. Hein. Le nouveau gouvernement grec a transmis à l'Union sa liste de réformes qui comprend donc la lutte contre l'évasion fiscale et surtout la lutte contre la corruption. Un ministère spécialisé a été créé à cet effet. Alexis Tsipras espère ainsi augmenter les recettes de l'État. Entre les enveloppes que l'on glisse discrètement et l'argent public qui disparaît, ces pratiques sont devenues le véritable fléau de la Grèce. Pour beaucoup, elles sont même à l'origine de la crise. Du coup, les mentalités changent et c'est le reportage de Charlotte Stievenard.
Assise à la terrasse d'un café, Yorgi Arovolas jette un coup d'œil sur son portable. Dans une heure, cette femme de 37 ans a rendez-vous pour un entretien avec une entreprise de démarchage commercial par téléphone. « Un travail d'étudiant », dit-elle en riant. Mais comme elle est au chômage depuis qu'elle a eu son premier fils il y a 5 ans, elle y va. La vie coûte cher, surtout quand il s'agit d'aller chez le médecin. Elle l'a découvert à la naissance du premier quand le gynécologue lui a demandé 900 euros glissés en sous-main. En Grèce, c'est ce qu'on appelle la fakelaki, l'enveloppe. Il y a 3 ans, pour son second fils, la somme avait même augmenté.
La deuxième fois, j'ai payé la consultation à l'hôpital, mais le docteur a pris le reçu et l'a déchiré. Elle a dit « vous ne les paierez pas, vous me donnerez directement 50 euros à chaque fois que vous viendrez ». Et une semaine avant la naissance, elle m'a dit de payer en plus 1500 euros.
Incapable de payer, Yorgi Arovolas prend peur. Elle contacte alors la police qui lui propose d'utiliser des billets spéciaux, reconnaissables, pour avoir une preuve lors de l'arrestation du médecin. Mais alors qu'elle doit accoucher bientôt, elle craint de ne pas trouver un autre gynécologue non corrompu. Elle décide alors de négocier. Finalement, le tarif du pot de vin est abaissé à 500 euros. La future mère accepte, mais aujourd'hui, alors que sa situation financière a empiré, elle ne referait pas le même choix.
Je veux faire les choses normalement. Avec mon travail, j'ai cotisé pour l'assurance maladie, l'hôpital. Tout est déjà pris en charge. Ce n'est pas nécessaire de payer en plus. Ces docteurs ont un salaire. Moi, je n'ai rien en ce moment.
Devant l'ampleur du phénomène, une jeune grecque de 24 ans a décidé de créer un site internet « Ezosa Fakelaki ». « J'ai payé un pot de vin » en français. Depuis 3 ans, les gens qui ont participé à ce type de transaction peuvent y raconter leur histoire de façon anonyme. Aujourd'hui, il en recense plus de 1800, ce qui représente à peu près 5 millions d'euros. Le site est divisé en 4 parties « J'ai payé », « J'ai accepté » ou encore « J'ai dénoncé un pot de vin ». Mais pour elle, c'est la catégorie « je n'ai pas payé » qui est la plus intéressante.
De plus en plus de gens témoignent dans cette section. Ils en ont assez de seulement pointer la corruption du doigt. J'ai l'impression que l'omerta qui existait avant la crise, où tout le monde savait, mais personne ne parlait, est terminée. Maintenant, les gens osent parler, mais ils se disent aussi « je ne vais plus me battre, dénoncer, je vais laisser ça aux autorités ». Ce que je peux faire en tant que citoyen, c'est récompenser ceux qui ont été honnêtes avec moi. C'est détourner le travail de ceux qui sont corrompus et le donner à ceux qui le méritent parce qu'ils sont honnêtes.
Dans une autre partie du site, quelques personnes expliquent pourquoi elles ont accepté des pots de vin. La principale justification, c'est qu'elles considèrent souvent leur salaire comme trop faible. Et pourtant, aujourd'hui, les pratiques semblent changer. En tête de la liste noire, on trouve toujours les hôpitaux suivis du service des impôts et des permis de construire, mais selon une enquête de Transparency International, pour la 3e année consécutive, le phénomène a diminué. Rien qu'entre 2012 et 2013, la somme des transactions estimées a baissé de 16%. Les raisons invoquées pour ne pas payer, la crise économique, mais aussi une reconnaissance du problème social que cela pose.
On voit le sale, je pense.
Ça, ce n'est rien, j'ai 2 meilleures photos. Il y en a beaucoup sur lesquelles on voit le sel à cause de l'utilisation d'un mauvais ciment. On le voit à l'extérieur comme à l'intérieur du monument. On voit aussi qu'il commence à y avoir des fissures.
Konstantinos Damianos vient régulièrement dans les bureaux de Transparency International à Athènes, une organisation non gouvernementale. Il y reçoit un soutien juridique alors qu'il y a 2 ans et demi, ce fonctionnaire du ministère de la Culture a dénoncé un cas de détournement d'argent public. À l'époque, il vient vérifier l'état d'un monastère en cours de restauration sur la presqu'île d'Evia, à l'est de la région de l'Attique. Il calcule alors que sur les 250 000 euros du budget prévu pour ces travaux financés par l'argent public, environ 70 000 ont disparu. Ce n'est pas le bon ciment et il manque du personnel et du matériel. Aussitôt, ce passionné de patrimoine religieux alerte sa supérieure directe. Alors qu'aucune mesure n'est prise, 6 mois plus tard, il écrit directement au ministère de la Culture. Mais ses relations avec sa supérieure empirent, il estime être victime de harcèlement. C'est alors lui qui se retrouve sous le coup d'une procédure disciplinaire pour ne pas avoir respecté la hiérarchie.
Je m'attendais à avoir des problèmes avec ma supérieure, mais pas avec le ministère de la Culture. Je pensais qu'il protégerait quelqu'un qui essaye de faire son travail. Mais malheureusement, le propriétaire de l'entreprise qui fait la rénovation est un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Culture. Il a démissionné pour travailler dans le privé. Il connaît les gens et le fonctionnement du ministère car il était très bien placé.
L'année dernière, une loi a été créée pour protéger des poursuites ceux qui dénoncent des cas de corruption dans le secteur public. Mais Konstantinos Damianos ne rentre pas dans la bonne catégorie. Il faudrait pour ça qu'il apporte la preuve d'un pot de vin ou d'un trafic d'influence. Alors que l'affaire a été rendue publique, le ministère de la Culture a finalement lancé une enquête l'année dernière. Aujourd'hui, Konstantinos Damianos attend un signe positif. Il demande à être muté vers un autre service pour ne plus subir les pressions de sa supérieure directe. À Transparency International, on salue les avancées des dernières années. Mais pour Konstantinos Bakouris, le président de l'ONG en Grèce, c'est l'avenir de l'économie grecque très touchée par la crise qui est en jeu.
Si on ne résout pas les problèmes de corruption en Grèce à long terme, on n'aura jamais de marché compétitif parce qu'il ne sera pas ouvert. Les investisseurs seront réticents. La corruption est au cœur de nombreux problèmes. Elle doit être éliminée ou contenue si nous voulons stopper la crise et augmenter notre potentiel d'investissement. Même si les Européens disaient aujourd'hui « on oublie votre dette », eh bien si nous ne changeons pas, si nous ne combattons pas la corruption, si nous ne devenons pas des citoyens responsables, dans 10 ans, nous en serons encore au même point.
Konstantinos Bakouris estime que l'aide technique apportée par les créanciers de la Grèce a joué un rôle important dans la lutte contre la corruption. Mais il fustige le manque de volonté politique à long terme. Il espère que la création d'un ministère anticorruption par le nouveau gouvernement de la gauche radicale et des souverainistes ne sera pas qu'un symbole.
Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté.
Et voilà le slogan, hein, génération Y connectée. On l'aura compris. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors on l'a deviné, on va sonder les aspirations de cette génération. Mais est-elle vraiment si différente de la génération X qui l'a précédée ou de celle des baby boomers d'après-guerre? Cette question ne cesse en fait d'alimenter les réflexions et parfois les fantasmes des instituts d'études et autres fondations. Alors vous êtes penchée sur la dernière en date, Eve.
Oui, celle-ci est commandée par l'INSEA, d'une école de management en banlieue parisienne, et un think tank installé à Singapour. On peut dire que l'ampleur de cette enquête est impressionnante. 16 000 personnes interrogées au total dans 43 pays. Pendant 2 ans, entre 2012 et 2014, toutes sont nées entre 1980 et 2000. Ce sont donc bien des Y, des millennials, en anglais, des enfants du millénaire.
Et alors, Eve, que dit cette étude?
Ce qui est marquant, c'est d'abord comment elle le dit. L'étude se décline en 6 parties. Comprendre une génération mal comprise, nos plus grandes peurs, ou encore encouragez-moi, mais ne me dites pas ce que je dois faire, ou vous ne m'avez pas compris. Bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que la tournure des intitulés sonne de manière un peu agressive et laisse penser que ces études exposent au grand public un véritable fossé entre la génération Y et ses aînés.
Notamment, si j'ai bien compris, dans le rapport au travail.
Oui, ce domaine de recherche semble intéresser particulièrement les sondeurs. On dit les jeunes issus de la génération Y, allergiques à la hiérarchie, branchés sur leur appareil électronique en permanence, tandis que leurs aînés seraient plutôt disciplinés, impliqués dans leur travail et leur entreprise. Bref, ils auraient toutes les vertus. La question d'une identité générationnelle mondiale se pose bien, car dans une quinzaine d'années, 75% de la force de travail mondiale donc sera issue de cette génération Y. Autant se préparer à demain.
Oui, mais vraiment, Eve, est-ce qu'ils sont si différents de leurs aînés?
Ils sont en tout cas déjà bien différents les uns des autres en fonction des continents. 40% des personnes interrogées reconnaissent que pour eux, devenir un leader est quelque chose d'important, mais les Européens justifient cette volonté par l'aspiration à un salaire confortable, tandis que les Africains visent, eux, la possibilité d'influencer leur entreprise. Un point commun, par contre, entre les Européens, Africains et Américains, l'attente vis-à-vis de leurs managers, leurs aînés, donc, cela doivent les faire grandir et progresser, ils sont en demande.
Autre domaine d'exploration de ces différences, la place du travail dans les priorités de vie.
Et une convergence entre l'Asie et l'Amérique du Nord, la priorité numéro 1 est à 60% le temps passé en famille, tandis que chez les jeunes Africains du millénaire, la carrière est la priorité la plus fréquemment citée. Quant aux jeunes Européens, ils veulent surtout progresser, apprendre de nouvelles choses.
Alors l'étude, Eve, se fait aussi le reflet de certaines angoisses.
À chaque continent, son sujet d'anxiété, là encore, l'Europe et l'Amérique du Nord sont ceux qui sont le moins optimistes quant à la possibilité de vivre mieux que leurs parents, seulement 1 sur 2, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux à le penser dans les pays émergents, Afrique ou Asie.
Et là voilà peut-être la différence entre la génération Y et les générations précédentes.
Ah, c'est sûr que la conjoncture économique ne pousse pas franchement à l'optimisme, notamment en Europe, mais cela suffit-il à diaboliser les jeunes travailleurs d'aujourd'hui? En réalité, comme le signale le site d'information en ligne Slate.fr, une autre étude menée par le géant de l'informatique IBM est sortie en janvier. Mythe, exagération et vérité dérangeante venait démontrer au contraire que la génération Y avait exactement les mêmes aspirations et le même rapport au travail que ses aînés.
Oui, ce qui veut dire qu'on se ressemble, hein, finalement.
Finalement, oui.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et Accent d'Europe, c'est déjà fini. À la réalisation, Françoise Grelot. Restez à l'écoute sur la Radio Mondiale. Dans quelques secondes, un peu de patience, le journal.